Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, j'avais un petit doigt de pied qui est resté un peu bleu, mais ça a duré 2-3 jours. Ceux qui sont passés le lendemain, qui avaient des conditions vraiment vénères, et on les a vus arriver, il y en a un qui était vraiment les pieds bleus, et lui s'est fait évacuer en hélico, ouais. vers Katmandou, parce que risque de perdre ses pieds, quoi.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invité Théo Drieux nous fait voyager les neurones grâce à sa chaîne Balade Mentale. Avec ses vidéos, il nous emmène du plus profond des abysses jusqu'au-delà des bords de l'univers. Son talent de vulgarisateur et sa plume de poète rend accessibles les sujets scientifiques les plus complexes. Pour réaliser certaines vidéos, il lui arrive de vivre des expériences extraordinaires, que ce soit dans le froid de l'Arctique ou bien en nageant en face d'un mur de requins dans les eaux polynésiennes. Il a même participé quelques jours à l'expérience Deep Time, où des scientifiques se sont installés dans une grotte à 300 mètres sous terre, sans horloge et complètement coupés du monde, pour en apprendre plus sur notre perception du temps. Voilà, donc je pense qu'avec tout ça, il devrait avoir 2-3 anecdotes intéressantes à nous raconter, mais avant qu'on aille dans le futur et que Théo nous parle de ses expériences passées, je me concentre sur l'instant présent et je dis à Marie namasté.
Bonjour Maxime.
Namasté Marie.
Namasté, pourquoi namasté?
J'essaie de changer les trucs depuis que Sophie Marie Laroui a critiqué ma façon de présenter l'émission. J'essaie d'être disruptif.
Namasté Maxime.
Ça va Théo?
Ça va très bien.
Est-ce que Marie, toi tu savais qu'il y avait des endroits sur Terre où on pouvait pas naître? C'était interdit de naître.
Pardon? Non, je savais pas.
Bah moi non plus je savais pas.
Et si genre par malheur une femme enceinte est là?
Eh ben, on va demander ça à Théo parce qu'il est allé dans un endroit où il est interdit de naître. En tout cas, c'est ce que il me regarde trop bizarrement. Il dit de quoi il me parle.
Alors, faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire. Je suis en train de me demander.
Ouah, ça va être un épisode.
Ah, Svalbard.
Oui, exactement. Oui,
effectivement.
Attendez quoi? Mais alors, faut qu'on.
En fait, il y a pas. Techniquement, c'est pas possible. Il y a aucune infrastructure là-bas.
Ouais.
Et bon, j'imagine pas que c'est littéralement interdit de naître au sens où si t'as un enfant là-bas, on va pas te le confisquer. Mais t'es rapatrié en fait.
Mais non, alors il y a des. On n'a pas le droit d'enterrer des morts. Non, c'est où qu'on n'a pas le droit d'enterrer des morts? Ah, il se souvient plus de ses vidéos.
Non, mais je me souviens pas avoir dit ça.
Ah, il me semble il y a un endroit dans le Grand Nord, il peut pas y avoir de tombe et tout.
Je sais pas si ça a un rapport avec. Parce que ça peut-être va conserver
parce que la neige, je crois. Enfin non, parce que la glace, elle va fondre à un moment et
oui,
tout.
Oui, à cause du permafrost, effectivement.
Ah, voilà. Ok. J'étais pas.
Voilà, donc voilà, on va rien comprendre pendant une heure. Là, j'ai l'impression que cet épisode, ça.
Ces petits moments de flottement du départ, c'est pas grave.
Du coup, je disais que il y a deux semaines, on a reçu Sophie Marie Laroui qui a une angoisse du voyage. Donc on n'a pas trop eu d'aventure et d'expérience il y a deux semaines et je me suis dit avec toi Théo, on allait aller dans le dur, dans l'inhospitalier, dans plein de trucs assez fous. Donc j'ai très très hâte que tu nous racontes tout ça. Moi je suis fasciné par l'expérience que tu as fait Deep Time où tu es allé dans la grotte, j'espère que tu vas pouvoir nous en parler.
Mm.
Mais avant que là, l'intro est hyper longue, est-ce que ça te dirait pas de te présenter en anglais comme si tu étais dans une auberge de jeunesse et qu'il y avait que des gens autour de toi que tu connais pas?
Fuck.
Ah, je savais pas.
Ok, so Ellie, hello everybody. I'm really glad to be here. I hate Jack Johnson, but really I hate Jack Johnson. I'm Bob Marley, especially when I travel, because in all guest house you hear this all the time.
Alright.
Yes, so if you put some Jack Johnson, I will burn myself. And I hope we will have some fun together. And sorry for my English.
Ça baroude un peu, non?
Ça baroude un peu.
Ouais, ça a des petits trèfles, effectivement. Ouais,
il y a de l'expérience. Tu sens qu'il y a de l'expérience de voyage.
Ouais, de la guest house un peu. un peu hippie cheap en Asie du Sud-Est, quoi.
Ah bah, j'ai fait aussi.
Quand tu te présentes, tu dis pas trop ce que tu fais dans la...
Ah pardon, je croyais que c'était... Non.
Bah oui, non, mais c'est comme tu veux.
Donc toujours en anglais ?
Parfois, il y a des gens, ils disent leur métier quand ils se présentent, tu vois. Toi, tu le fais pas trop, tu dis pas trop.
Non. Okay, I'm homo sapiens, I'm born in Nancy, I'm come from Rainon Island. Dans la vie, je suis vulgarisateur, je sais même plus comment on dit, cultural of science. Et voilà, je sévis sur YouTube maintenant depuis 6 ans, et c'est devenu mon métier depuis 4 ans. Je fais plus que ça.
Et qu'est-ce que ça t'évoque, le voyage ? T'as vu, je change aussi ma façon de poser la question à cause de Sophie Marie Laruy. Qu'est-ce que ça t'évoque, le voyage ?
Y a une part de fuite, je pense. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose d'autre, mais en fait, on fuit le monde dans lequel on est. Et ça dépend. Moi, j'aime bien le... c'est bizarre, je déteste, par exemple, retourner plusieurs fois au même endroit. J'aime bien les milieux assez hostiles, des trucs un peu secs, un peu bruts. J'aime bien la nature... quand elle met implicitement en danger, même si en fait j'ai pas vraiment envie de me faire mal, tu vois, mais c'est des paysages que j'aime bien, genre me larver sur une plage au soleil, ça me gonfle très 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 vite. C'est vraiment pas ce qui m'attire. Après, moi j'ai été bercé là-dedans assez jeune. J'ai eu la chance, j'ai toujours la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup voyagé, et puis à une époque où c'était quand même très très différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on part, on a tous un guide. Mon père, il est allé en Inde en prenant des voitures, enfin, à l'époque où tu avais, en faisant du covoiturage, mais de gare en gare, en demandant aux gens, en passant par des pays aujourd'hui, bah, tu peux plus passer, genre typiquement l'Afghanistan, le Pakistan, qui était absolument safe dans les années 70. Pareil, enfin, aujourd'hui, le Sahara, ça demande une préparation et tout. Alors, peut-être qu'il y avait une forme d'innocence aussi à cette époque, de naïveté, ou je sais pas, vous mesurez pas le risque. Il y avait peut-être aussi beaucoup moins de risques géopolitiques à certains endroits, mais ils ont fait des trucs. Enfin, moi, des fois, quand j'ai l'impression d'avoir fait des choses un peu engageantes, je me rends compte que c'est tellement peanuts par rapport à certaines personnes ou à certains vécus. Après, encore aujourd'hui, on trouve des énergumènes qui vont chercher des endroits vraiment bousculants et perdus, quoi. Donc en fait, je ne saurais même pas définir le voyage, tu vois, parce que genre, partir à Rome, c'est pas vraiment un voyage. Après, si tu pars à Rome en faisant des petits trains ou en faisant du covoiturage, c'est un autre voyage, un autre délire que si tu prends l'avion pour y aller. Ça dépend ce que ça te demande, ce que ça... En fait, on peut voyager, faire des voyages incroyables en France. Moi, j'ai un pote, là, il a descendu la Loire en canoë tout seul. Ça lui a pris 3 semaines. En fait, c'est un foutu voyage, ce truc. Et voilà.
Trop bien.
Trop bien.
Tu disais, ton père, il a fait des voyages de ouf. Il t'a emmené quand tu étais jeune?
Non, j'étais pas né. C'était à peu près 10 ans avant que je naisse. Par contre, ma mère m'a emmené quand j'avais... des quelques voyages marquants que j'ai fait avec mes parents, j'ai été à Madagascar quand j'avais 12-13 ans. Et avec ma mère, quand j'ai eu 18 ans, elle a à tout prix voulu me montrer le Ladakh, qui est cette région au nord de l'Inde. En fait, c'est à la frontière Chine-Pakistan. C'est vraiment le haut du triangle indien. C'est très différent de la représentation qu'on peut avoir de l'Inde. Enfin, c'est bouddhiste là-bas et un petit peu musulman. C'est des paysages très arides. On est dans les contreforts de l'Himalaya, quoi. Et c'était vraiment un de mes premiers voyages très marquants, avec une nature hyper... hyper brut, très sauvage, mais sec. Et je suis parti aussi, un an après, avec ma mère, toujours, en Birmanie.
Ok, wow.
Et donc ça, c'était trois voyages super qu'on a fait
quel
en
âge
famille. 18 et 19.
Ok.
Ouais. Et puis après, bah, le virus m'a pris quand j'en ai re-eu les moyens, quoi, on va dire.
Trop bien.
Oh bah, tu vois, on va vachement voyager. Je suis ravi. Mais avant tout ça... J'ai l'impression
mais
que c'est
on peut
l'heure.
Rester dans le 18e si vous voulez.
C'est vrai. Moi, j'ai fait un truc. Bon, alors, j'ai voyagé lundi. Je suis parti faire une rando. Il y a un site qui s'appelle Rando Navigo. Et en fait, c'est pour les Parisiens. Hein, mais genre, ça te permet de voyager, de faire des randonnées dans la forêt, mais juste avec en prenant ton Navigo. C'est-à-dire que c'est maximum zone 5, tu vois. Et donc, moi, je me suis retrouvé. Je dis, oh, je veux de la nature et tout. Et ben voilà, c'était un sacré voyage.
Non, mais en vrai, tu vois, vraiment... genre même à Paris, ouais. Une fois, il y a quelques années, avec une amie, on avait un espèce de... Je ne sais plus qui nous avait offert ça. C'était, on a suivi des GR qui sont hors des boulevards et tout. Et on a marché pendant une journée. Mais on a vraiment fait 25 bornes, quoi. Enfin, on a marché toute la journée. Bon, j'exagère un peu sur les 25, mais c'était génial en fait.
Et Marie, alors ce petit quiz, qu'est-ce qu'elle nous a préparé?
Ah oui, il y a un quiz.
Il m'a parlé. Génial. Il m'a parlé. Comment? Bon, alors qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame? Elle va nous faire un quiz. Alors bon, vous, voilà, je vais pas vous mytho, je suis fatiguée, non, mes arrête, thèmes de
tu
quiz.
Dis ça à chaque toutes les deux
ouais,
semaines.
Voilà, je dis ça à chaque fois.
Ça marche plus.
Donc, attention, le thème de ce quiz. Ta chaîne YouTube s'appelle Balade Mentale. Moi, je connais un magasin de disques qui s'appelle Balade Sonore. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire un quiz spécial musique.
Wow. Je suis tellement nul au blind test, ça va être l'enfer.
Donc voilà, c'est encore un quiz, on va pas apprendre grand-chose.
On va voyager un peu quand même.
On va voyager. Ouais,
oh là
ouais,
là,
ouais.
Marie, qu'est-ce que tu nous as fait là?
Dans la chanson Voyage, Voyage, Désirless chante Voyage, Voyage. Plus loin que la nuit et le jour, voyage, voyage dans l'espace inouï de l'amour, voyage, voyage sur l'eau sacrée, 1, d'un fleuve indien, 2, d'un bol tibétain, 3, de mon bain.
D'un fleuve indien?
Le premier, oui.
Eh oui, d'un fleuve indien, d'un fleuve évidemment. Indien. J'avais dit que ce serait râler pas quatre. Maxime le forestier a chanté « C'est une maison bleue adossée à la colline, on y vient t'appeler, blablabla ». Mais où se trouve
San Francisco.
Cette maison? Ouais, voilà, très facile. Ok, ok, là on rentre dans des questions un peu plus marrantes. Quand je pars en Grèce, je vais en Grèce souvent, les touristos et touristas le savent, dans les boîtes de nuit, ils ont toujours la même playlist, et il y a quelques chansons françaises qui passent tous les étés, tous les jours, et j'ai jamais compris pourquoi ces chansons-là. Laquelle de ces chansons n'est pas dans la playlist des DJ grecs? 1. Ben l'oncle Soul, Soulman. Stromae, Alors on danse. Indila, Dernière danse. Ou Helmut Fritz, Ça m'énerve.
Je connais pas les deux derniers.
Ah, Helmut.
Indila, c'est Je remue le ciel le jour. Faut pas que je
ah, chante. Ça c'est Eurovision, ça peut-être, non?
C'est possible, ouais.
Ben l'oncle Soul, je dirais. Les autres, ils sont peut-être internationaux.
Ok, Ben l'oncle Soul pour Maxime.
Donc le
bah, je connais pas les deux derniers et je pensais pas que le premier était français.
Soul man, écoute ça. Baby.
Oui,
mais vraiment,
les
touristos se régalent. Ah. Eh bien, c'est Helmut Fritz, ça m'aide.
Ah, nous sommes d'accord.
Ils sont pas dans l'humour en grec. Allez, dernière petite question, une mise en situation. Vous voyagez seul, il est l'heure de prendre un bus pendant 5 heures pour vous rendre à la prochaine destination. Malheureusement, vos écouteurs sont déchargés et vous avez perdu votre casque. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas de moyen d'écouter de la musique. Petit 1. Impossible de voyager 5 heures sans casque, vous loupez votre bus et partez à la recherche d'écouteurs et vous prendrez le prochain. Petit 2, pas grave, pourquoi ne pas discuter avec les passagers du bus? C'est ça finalement le voyage. Ou petit 3, si vous n'avez pas de musique dans les oreilles, alors c'est vous qui ferez la musique et vous vous mettez à chanter l'album entier de Michel Sardou et vous avez plutôt un joli timbre.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une bonne réponse là?
Non.
Ah d'accord.
Ah ok.
C'est une mise en scène.
Ah bon, alors, je te laisse répondre.
Oh, moi je vais dire 2, hein, par brousser chemin.
Pas grave, pourquoi pas discuter avec les autres passagers?
Mm-hmm.
Ok.
Dans une langue que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire que en fait, je vais rester tout seul dans mon coin à regarder le paysage, mais c'est cool aussi.
Eh bien moi j'écoute Théo, et voilà, 2 aussi, c'est ça?
2 aussi?
Ouais.
Ok, vous êtes Tim, vous pouvez faire 5 heures sans écouteurs.
On peut même s'asseoir à côté et discuter si tu veux.
Bah voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à présent.
Oui, quelle transition de trouver.
Merci Marie.
J'ai trop envie que tu me parles de lieux inhospitaliers. C'est ça que tu as dit tout à l'heure, hein, que tu voulais aller dans des endroits un petit peu où c'est compliqué. Ça a commencé comment? C'est ton premier voyage un peu technique?
Bah, le Ladakh, on a fait un trek assez poussé, quoi, un truc de 8-9 jours, je pense, où tu es vraiment en fait, éloigné de toute route. Donc, tu n'as pas de point de ravitaillement. T'as tes deux ânes, un guide et puis tu dors par étapes, quoi. Donc tu trimbales toute ta bouffe et tout. Et mais ça va, c'est pas non plus... comment dire, je suis en train de réfléchir des trucs vraiment engageants. Bah si, l'année prochaine, j'ai un projet. Bah ça rejoint un peu la question que t'avais par rapport au projet Deep Time. Mm. Ça, pour le coup, ça, je veux dire, lui, Christian Clos, le mec qui a monté cette expé, qui est à l'origine.
On peut expliquer ce que c'est, Deep ouais. Time, du coup, maintenant.
En fait, Deep Time, c'était un projet qui emmenait une trentaine de participants dans une grotte à Lombreville, dans les Pyrénées. Une grotte vraiment gigantesque avec des volumes incroyables, où ils ont mis leur camp de base à pratiquement un kilomètre après l'entrée de la grotte principale pour vraiment être
isolé.
Complètement isolés, et ils sont restés comme ça hors du temps, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait aucun moyen d'avoir une mesure objective du passage du temps. Personne n'avait de montre, toutes les horloges des caméras étaient déréglées. Et nous, on est restés 4 jours à vivre le début de l'aventure avec eux. Donc quand on pensait que c'était le milieu d'après-midi du 4e jour, on devait sortir. Donc déjà, on est sortis, nous, avec 9 heures de décalage. C'est-à-dire qu'on sortait vraiment, on pensait, Léa et moi, donc Léa Bello, qui est journaliste au Monde et qui a aussi une chaîne de vulgarisation scientifique, on était partis tous les deux. Et donc nous, on est sortis en se disant, bon, allez, il est 15h, elle disait 15h30, moi je pensais 14h, et en fait, il était minuit et demi. Tu vois, le soir, on était encore le bonjour, mais on était en retard.
Le temps passait plus rapidement pour toi dans ta tête.
Il passait plus rapidement que nous, on avait l'impression qu'il s'écoule.
Ah, d'accord.
La vitesse d'écoulement, il est... Et en général, c'est ce que donnent ces expériences, c'est que quand on va les prévenir que l'expérience est finie, puisqu'ils ne peuvent pas le savoir, c'est quelque chose comme... Eux, ils sont 80% en retard du temps réel. Donc, sur une expérience de 40 jours, il y en avait qui, quand ça s'est terminé, pensaient qu'on était le 33e jour, qui restait encore une semaine d'expérience, tu vois. Le truc qui est très déroutant, c'est que tu peux te coucher. Admettons, tu as vraiment un sentiment, t'es fatigué, tu te couches. Si tu te réveilles et que tu as l'impression d'être reposé, tu n'as aucune idée si tu as fait une sieste, une nuit d'une heure et demie, mais tu t'es réveillé en pleine nuit, mais ça, le corps te dit ça va, tu pourrais te relever, ou si tu as dormi 10 heures. Alors, les premiers jours, comme tout le monde est sur le même cycle, si tu te lèves, que tu vois les gens sont au petit-déj, tu peux le savoir, mais au bout d'un moment, tu as des gens qui dorment 10 heures, d'autres qui sont hyperactifs qui dorment 4 heures. Moi, je me souviens, le deuxième jour, je me suis réveillé, j'étais en suqué. Léa, elle dormait comme un sac, elle bougeait pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Genre, on est au milieu de la nuit, tu vois, j'ai dormi 2 heures et on était au fin fond d'un autre boyau. Donc, de toute façon, il faut imaginer, il fait nuit noire, vraiment. Donc, t'es tout à la lampe et t'as juste le camp de base qui est éclairé. Où là, t'as je les appelais un soleil artificiel, une grosse boule qui donne de la lumière un peu type soleil pour que tu sois pas non plus... parce que c'est l'organisme, il prend cher.
Ouais, c'est psychologiquement
Les deux, en fait, psychologiquement. Bon, après, tu peux, sur le long terme, tu vas avoir des carences en vitamine D, tout ça.
Ah, oui.
Donc, c'est des lumières qui sont un peu pensées pour approcher celles du soleil. Mmh. Et bref, tu avais quand même 10 minutes, un quart d'heure de marche pour aller de l'endroit où on dormait à cet endroit-là. Donc, un silence absolu, tu es dans le noir, dans cette grotte. Alors, c'est des gros volumes, hein, c'est pas de la spéléo et tout, mais tu te dis, je vais arriver au camp de base, il y aura strictement personne. Et en fait, peut-être que j'ai dormi une heure et demie, ce qui sera, je vais m'emmerder pendant 5 heures, ou alors je vais me recoucher. En fait, là, t'arrives, moi en plus j'avais l'impression d'être fatigué un peu. T'arrives, et puis là, t'es soulagé de voir qu'il y a déjà 7-8 personnes levées. Donc, soit on s'est tous réveillés au milieu de la nuit, soit c'est bon signe. Ah ouais. Et bref, cette mission-là, elle a été construite. Est porté en grande partie par Human Adaptation Institute, qui est un organisme de recherche qui est, je sais plus, c'est fondé ou confondé par Christian Clot, qui lui est un scientifique aventurier, qui a fait des véritables trucs de malade. C'est la première personne à avoir traversé en solitaire la cordillère de Darwin. C'est une région au sud de la Patagonie qui est complètement inexplorée. Enfin, on a des cartes par les satellites, mais personne n'est rentré à l'intérieur de ces îles-là, qui pour certaines font plusieurs dizaines, centaines de kilomètres carrés. C'est vraiment des territoires énormes. Alors peut-être que les Indiens à l'époque y sont allés, on n'a pas retrouvé de traces, mais donc bref, lui il a fait ce genre de truc, et il a fait il y a quelques années une mission qui s'appelait 4x30, et pour rebondir sur les milieux extrêmes, lui il voulait voir comment l'humain s'adapte à des conditions vraiment bâtardes. Donc il y a 4 formes de conditions un peu violente, tu peux avoir chaud sec, chaud humide, froid sec, froid humide. Et donc lui, il allait chercher du moins 50 sec, du plus 50 sec, du plus 35 humide, et tu peux difficilement, je crois que t'as le moins 10 humide. Après, le taux d'humidité tombe. Et du coup, il a fait ça pendant 4 fois 30 jours. Il y a tout un protocole de recherche derrière sur comment son organisme se comporte, s'adapte, par rapport à sa condition initiale et tout. Et là, en gros, ça fait quelques années qu'ils avaient en idée... Bon, le Covid est venu mettre son grain de sable dans tout ça, mais ça va se lancer, là, cette année. Et il va refaire cette expérience, mais en groupe, voir l'impact du social sur la résilience à des conditions qui sont un peu... un peu poil à gratter, quoi. Et du coup, ils repartent. Donc là, il y aura 11 femmes et 11 hommes. Mmh. Donc, ils vont partir à chaque fois 40 jours.
Mais toi, tu y vas ?
Donc nous, on va y aller.
Faut pas se planter quand tu fais ta valise.
On y va que la première semaine.
Okay.
C'est-à-dire que nous, alors pour nous, c'est suffisamment long pour pouvoir en chier, hein, faut appeler un chat, mais tu vois, nous, on sait qu'à la fin de la semaine, on s'extirpe de ce truc-là, eux, ils vont y rester 40 jours, donc normalement, voilà.
Les 40 jours, ils passent par les 4 ?
Non,
c'est pas ça, non, c'est 40 jours, un truc.
Après, ils reviennent, t'as un mois de battement à peu près. Et après, ils repartent.
Rue 40 jours chaud, ouais. Et machin. Ok, d'accord.
Et c'est des gens qui se connaissent à la base ou ils se connaissent pas à la base ?
Alors, certains faisaient partie de Deep Time.
Ok.
Le truc, c'est qu'en fait, toutes ces personnes sont bénévoles.
Ah oui.
Il n'y a pas forcément besoin.
C'est Loft Story. Payer
cher, hein,
puissance. Il n'y a pas forcément besoin d'être extrêmement sportif et tout. De fait, comme c'est des bénévoles et c'est des gens qui sont volontaires pour ça, c'est des gens qui ont quelque part le goût de ces expériences un peu extrême, et donc c'est des gens qui sont résilients. C'est important, en fait, parce que si t'as vraiment quelqu'un qui craque, ça remet en cause la mission. Ouais. C'est pas des milieux où tu peux dire « bon, bah moi, j'arrête ce soir ». Enfin, tu vois, si tu veux sortir de ce désert, il y a un protocole à respecter, des gens à appeler, enfin... Oh.
Ouais, mais du coup, ça fausse un peu...
C'est la première étape nécessaire. C'est-à-dire qu'après... Okay. Alors après, pareil, si tu prends des gens qui ne sont pas volontaires, ça s'appelle de la torture.
Oui.
Mais au moins, l'expérience, au moins, elle est réelle. Quoi.
Elle est réelle, c'est vrai. Donc voilà, après, il y a plein d'hypothèses et plein de recherches, de thèses qui vont être menées sur cette expérience. Et donc, ça va être, je pense, une super aventure à suivre.
Excellent.
Voilà. Donc, tu vois, ça, pour moi, ça, c'est de l'aventure. Quand je dis que je suis allé au Ladakh avec ma mère, juste on est allé marcher, quoi.
Ouais.
Enfin, j'ai des potes qui font de l'alpinisme dans les Alpes, qui font des trucs qui sont 10 fois plus engageants que ce qu'on a pu faire. C'est pas parce qu'on était ailleurs et loin qu'on...
Est-ce que tu sens que t'as des facilités à accepter des situations un petit peu hardcore, ou alors parfois tu stresses, parfois tu te dis oh là là, mais pourquoi je vais faire ça ? Est-ce que c'est... Et comment c'est ton mental par rapport à tout ça ? Ça se balade ou...
Ouais, ça se balade. Ouais. Non, bah en fait, souvent ouais. Alors je sais pas... pour tout le monde, mais moi ça m'est arrivé souvent, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là en fait.
Ah quand même.
T'es un peu con, enfin tu pourrais être chez toi.
Mais la panique ou pas la panique ?
Non, pas la panique,
ouais.
mais pourquoi s'infliger ça, tu vois. Mais même sans aller jusqu'à l'exemple là de ce projet qui s'appelle Deep Climat, où c'est vraiment poussé jusqu'au bout, mais tu sais quand tu vas faire, je sais pas, une marche en montagne où tu vas bivouaquer, tu marches 6 heures, tu transpires, il se met à flotter, tu sais que le soir tu vas dormir dans une tente, tu seras un peu détrempé, tu vas manger un truc qui est pas ouf, enfin c'est pas, et après t'es récompensé parce que t'as des bouquetins, parce que t'as un paysage incroyable, ouais, que t'aurais pas vu autrement, et parce qu'en fait t'as aussi accès, je trouve, à des trucs qui se méritent, tu vois. Si tu pouvais y aller en humeur par une route, t'as pas la même saveur que si t'as les cuisses qu'on travaillait 4 heures, quoi. Mais sur le coup, des fois, tu fais ouais, en fait.
Y a des expériences que t'as regrettées, ou alors quand même tout le temps à la fin, même si t'en as chié, ou alors peut-être si t'es un peu mou sur le moment.
Regretter, non.
Bon, bah, super.
Par contre, ouais, une fois, je crois que je me suis un peu fait peur. J'étais allé, donc c'était il y a. Je devais avoir 29, je crois. J'étais parti au Népal tout seul. En hiver, super, vraiment génial. Et du coup, je voulais faire le tour de l'Annapurna, qui est vraiment un classique, qui n'a rien d'exceptionnel. En fait, l'Annapurna, c'est un très, très, très gros massif montagneux. Ça monte c'est le plus petit des 8000, je crois qu'il est à 8080 ou un truc comme ça. Et tu as un trek qui est très, très connu, qui
Combien
fait le tour.
Combien de temps ça prend à peu près ?
C'est 12 jours.
2 jours.
Ouais. Enfin, tu peux le faire en un peu moins ou un peu plus d'étapes, mais 12 jours, c'est correct. Si vraiment
Kylian Jornet, il le fait en combien ?
Ah, ça m'étonnerait qu'il descende en dessous de 3, mais je suis pas sûr qu'il fasse des
Ouais, donc ça dépend un peu ton niveau, quoi. Mais
ouais, non, mais de toute façon, ces gens-là sont des extraterrestres, vraiment, c'est n'importe quoi. Et t'as un pass en fait à mi-chemin du trek, où en gros t'as 6 jours de marche pour arriver à cet endroit où tu montes petit à petit en altitude, et t'as un jour où t'es à 3005, un jour où t'es à 3008, un jour à 4002, et après tu passes de 4002 à 5003. Donc ça, c'est vraiment une journée qui pique. Et après, tu redescends. Et donc, tu passes sur le versant opposé de la vallée. Okay. Mais tu es obligé de passer par ce 5003. C'est-à-dire que si tu veux faire... pour faire la boucle, ou soit tu refais les 5 jours que tu as fait dans l'autre sens, quoi. C'est vraiment une vallée comme ça et une vallée comme ça de l'autre côté. C'est super visuel, hein, le podcast, bien, je suis désolé.
Il a mis ses bras devant lui. Voilà,
comme parallèle.
Et l'hiver, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est un trek hyper fréquenté, mais l'hiver, personne ne le fait. Alors... Personne ne le fait, il y a bien une raison, c'est qu'en fait l'Himalaya, c'est hyper... tu peux avoir des températures qui sont proches des tropiques, enfin vraiment l'été il fait très très bon, même à 4000 mètres d'altitude, mais l'hiver il neige énormément, Et la nuit, il peut faire très très froid. Et en fait, là-bas, je veux dire, t'as les gîtes dans lesquels tu dors, c'est des espèces de bâtisses en briques et en cailloux, une espèce de tas aggloméré. Il fait littéralement, nous, on avait du moins 12 dans la chambre.
Ah yes.
Donc tu dors dans ton duvet, tu dors habillé dans ton duvet avec, t'as pas froid parce que t'as 3 couvertures dessus, tu vois, tu vraiment, enfin, il ferait même -20, t'aurais pas froid, mais dès que tu sors, ça, c'est vraiment, c'est du froid mordant. Et là, quand je suis parti, j'étais tout seul, donc tu commences à avoir super froid aux pieds, ça fait 3 heures que tu marches, t'as du vent, t'as personne, tu sais que t'as un peu des gens derrière, mais tu les connais pas.
Ouais.
On est 5-10 à tout casser sur le même sentier, tu commences à avoir le mal des montagnes. Donc là, pour le coup, j'ai un peu flippé. Et surtout que j'avais vraiment, mais tu vois, froid, ou au point, à un moment, j'ai trouvé une espèce de truc de, je sais pas, une dépendance où ils doivent poser peut-être du bétail en été quand les conditions le permettent. Et tu t'arrêtes et t'enlèves tes chaussures, tu vois que tes pieds, tu vois, ils sont pas bien. Tu les mets dans le duvet pour essayer de. Et t'as déjà marché 3 heures. Et cette journée était infernale, vraiment infernale. Et puis si tu as cette voix dans ta tête qui t'explique, ok, déjà, abandonner, c'est pas cool. Mais là, si t'abandonnes, en fait, ça change tout le trek, t'es reparti pour... Ou alors tu redescends à ton point de départ, t'attends une journée pour mieux t'acclimater, mieux t'entraîner, j'en sais rien. Puis tu peux pas acheter les chaussettes. Moi, j'étais mal préparé, j'étais con. Franchement, j'avais pas les bonnes chaussures. Donc t'as mis 3 paires de chaussettes les unes sur les autres, ça change rien. J'ai fini le truc. J'avais sorti l'équipement du désespoir. Tu sors des sachets plastiques que tu mets par-dessus, ce qui ne sert strictement rien, ça n'isole absolument pas. Au mieux, ça fait glisser. Donc ça rend le truc encore plus dangereux.
Très bien, je note pas du
mais,
coup.
Mais après, ouais, c'est bien parce que tu sors de là. Moi, ça va, franchement. En fait, j'avais un petit doigt de pied qui est resté un peu bleu, mais ça a duré 2-3 jours. Mais quand tu vois ceux qui sont passés le lendemain, qui avaient des conditions vraiment vénères, et le lendemain, nous, je suis pas reparti, on reste au même endroit. Et on les a vus arriver. Il y en a un qui était vraiment les pieds bleus, et lui, il s'est fait évacuer en hélico vers Katmandou parce que risque de perdre ses pieds, quoi. Et donc là, tu fais, ouais, j'ai joué, en fait, j'ai été con.
T'as joué avec la vie, quoi. Non, ou...
bah la... ouais
parce que l'alpinisme, j'ai l'impression que
c'est
quand
pas
même...
l'alpinisme, ça demande pas de connaissances techniques au sens où t'as pas de piolet, c'est un chemin hein. C'est juste un chemin mais qui est à plus de 4000 mètres d'altitude où t'as pas eu le temps de vraiment t'acclimater parce qu'en fait 4000 c'est rien. Si ça fait 2 semaines que t'es à 3005, ton corps il fait des globules rouges et tu t'as aucun problème à marcher. C'est juste que là tu passes de 3005 où c'est là où tu commences à avoir le mal de l'altitude à 4000, 5000, et là, si tu passes ces altitudes en 2-3 jours, ton corps il s'est pas acclimaté.
Okay.
Du coup, paradoxalement, c'est vachement plus difficile que même faire, je sais pas, monter à 6000 si t'as pas de challenge technique, c'est pas difficile. Si t'as pas le mal d'altitude, normalement ça passe quoi.
Moi j'allais raconter une anecdote, mais du coup elle est vraiment minable à côté.
Bah justement, vas-y.
Moi j'y suis allée au Salard et au Uni.
C'est vachement beau.
C'est hyper beau.
C'est trop bien.
C'est magnifique. Et j'allais dire, ah ouais, moi aussi il faisait froid dans la chambre parce qu'en gros c'était, bah, il faisait à peu près 0 dans la chambre, tu vois. 0, 1 degré, un truc comme ça. Ouais. Donc dehors il faisait beaucoup plus froid, hein, il y avait quand même des murs. Mais du coup j'ai là, enfin, l'anecdote elle est pétée, c'est vraiment, oh là là, on a mis des couvertures de survie, des trucs pour avoir chaud parce qu'on se pelait tous le cul dans cette petite piole. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne supporte pas dormir avec quelque chose sur ma tête, donc j'ai eu froid au nez. Voilà.
C'est original.
Ah ouais, j'aime pas. Après,
est-ce que t'as appelé l'hélico pour ton petit nez?
Pour mon petit nez, non, il n'y a pas eu d'hélico. Le lendemain j'étais reparti, mais pareil, vraiment aucune préparation. Moi j'avais même paumé mes lunettes de soleil pendant mon voyage, j'étais là, j'ai vraiment besoin de lunettes de soleil, et tout le monde était là, meuf, c'est tout blanc, ouais, et il y a du soleil, genre oui, prends des lunettes. Et donc il y a un mec, juste avant que je parte, vraiment j'allais prendre le 4x4 avec les gens, il me dit, j'en ai 2 paires, prends les miennes quand même et tout, tu me les rendras en revenant.
Tu les as pas regrettées.
Et je les ai pas regrettées, hein. J'avais une tête de prof de ski, de mono de ski, mais j'ai fait, ah, il m'en a sauvé une belle.
C'est à combien de mètres d'altitude ça?
Le Salar, je sais pas.
C'est à, moi, ouais, je dirais 3008, 3005. C'est haut, hein.
À l'opposé de ce moment un peu de stress, est-ce que tu as eu un moment d'extase dont tu te souviens? Tu t'es dit, waouh, c'est bon, je peux mourir maintenant. C'est incroyable ce que je suis en train de vivre.
Non,
moi,
j'ai absolument à aucun moment envie de mourir maintenant. Or, pour le coup, ça m'est jamais arrivé.
Je pose la question. Non, parce que j'ai une ex, elle m'avait dit ça un jour. Elle était en voyage et elle a vu un truc. Et elle s'est dit, waouh, je vivrai plus jamais un moment aussi beau que maintenant.
Après,
si je meurs maintenant, c'est pas grave, quoi. C'est pour
ah
ça que
ouais,
j'ai dit
incroyable.
Ça.
Si, un sentiment un peu extatique, ouais, ou la notion vraiment d'être face à du sublime.
Ouais.
Mais typiquement, alors pourtant, c'est pas parmi les plus beaux paysages que j'ai vus, qui d'ailleurs, je pense, sont en Bolivie. vraiment les paysages les plus bruts avec des couleurs incroyables. Là, c'était très beau, hein, le Népal, mais tu vois, ça s'apparente un peu à ce qu'on peut avoir dans les Alpes, sauf que t'es beaucoup plus haut. Mais en fait, visuellement, toi, tu le sais pas. Enfin, il y a pas site. C'est peut-être un peu, c'est plus profond entre les vallées et les montagnes, donc c'est un peu plus écrasant les montagnes qui sont plus hautes autour. Mais t'as aussi ce genre de paysage à certains endroits des Alpes. Mais par contre, ouais, genre typiquement quand t'arrives au pass à 5003, donc tu sais qu'à partir de là, tous les pas que tu vas faire, déjà tu vas dans la bonne direction, tu ne fais que redescendre, donc à chaque pas t'es un petit peu plus bas et t'as un petit peu plus d'oxygène, et donc en fait les choses ne peuvent que s'améliorer. Et ouais, c'est assez génial, c'est assez jouissif.
En plus, tu tripes un peu, non? Si t'as de plus en plus d'oxygène dans ton cerveau, il est pas un peu plus genre comme si t'étais un peu drogué et tout?
Non, par contre, je pense que tu marches vraiment à l'adrénaline, c'est-à-dire que tu sais que t'es pas dans des conditions qui sont parfaites. Que vaut pas s'arrêter ici, et oui, t'es sur le qui-vive et ton cerveau il carbure, quoi. Après la nuit d'après, j'ai dormi 15 heures quand même, donc
une bonne nuitée.
Je crois qu'on arrivait à moins bien dormir quand on est en altitude. Une fois, j'ai essayé de dormir dans l'aiguille du midi, je crois, dans la petite cabane. Parce que Mathias, je faisais des vidéos avec
à
mon copain Mathias.
Là où tu montes
à 4000,
avec...
ouais, tu montes avec le téléphérique.
Ah bah, c'est clair que là, tu dors pas bien, surtout pas si dormi, t'es monté comme ça.
On a vu la lune, elle était belle. Hein. Oh là là, grosse pleine lune.
Tu sais que, je sais pas, j'ai envie de raconter des anecdotes dans cet épisode. Mais tu sais qu'un des plus beaux, je crois, un de mes meilleurs souvenirs de paysage et de où j'ai vraiment eu un moment d'extase, c'était avec toi en Thaïlande. On a eu un coucher de soleil à...
Koh Phi Phi
L'île d'après.
Koh Lanta.
Koh Lanta, où je suis vraiment allée à Koh Lanta parce que ça s'appelle Koh Lanta.
Ah, sur la plage.
Et sur la plage, on a eu un coucher de soleil de fou. Et j'ai plein de photos, plein de vidéos de ce moment-là. On n'était pas forcément ensemble tout le temps, donc je sais plus. J'ai eu vraiment un moment toute seule en mode... Là, le ciel, il est vraiment ouf. Genre, waouh. Et genre, c'est vraiment un truc où souvent, je me remate des photos. Et je fais,
tu veux dire que ton plus beau moment, c'était... en vacances avec Maxime, mais au moment où il n'était pas là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser?
Je suis sûr, il y a mes petits pieds sur la photo. Tu checkeras, il y a mes pieds qui traînent.
Oui, je ne sais pas où il était, mais c'est sûr qu'il était là. Et que...
bah, j'étais à l'hôpital en train de faire ma radio, peut-être.
peut-être.
Ma radio pour le bras.
Ouais. Mais vraiment, un truc, j'étais en mode, wow.
T'enverras la photo, moi, je veux la voir. Tu me montreras ça. Bon, on est monté un peu là en altitude, mais ce serait bien qu'on aille... Comment on dit l'altitude, mais à l'envers?
Les profondeurs.
Je croyais qu'il y avait un mot plus technique. Tu nous emmènes un petit peu dans les mondes du dessous aussi, non, dans tes vidéos?
C'est une série d'épisodes sur les mondes sous-marins qu'on a lancé avec Léa Bello, encore une fois, il y a l'idée du projet, mais il y a 3 ans, on a commencé un peu à en faire des épisodes il y a un an et demi. Et donc il y a une partie des épisodes qui traite des abysses, donc là on peut pas y aller en plongée, hein. Clairement aujourd'hui les humains en plongeant à l'air compressé, tu descends pas en dessous de 60 et avec des mélanges très particuliers où là tu es dans des plongées militaires, techniques ou ce que tu veux, c'est des fous furieux qui vont à plusieurs centaines de mètres. Mais après, bon, il faut des sous-marins, donc là on montre ce qu'on peut y voir avec des images de l'Ifremer, de la NOAA.
C'est quoi ces sous-marins, ça?
La NOAA, c'est un acronyme. En fait, c'est l'équivalent de la NASA aux États-Unis.
Ah, ok, d'accord.
Enfin, de l'Ifremer plutôt aux États-Unis. Et c'est souvent des images de rovers autonomes.
Ok.
C'est rare maintenant qu'on y envoie quand même des humains parce que c'est plus coûteux d'avoir un truc qui résiste et tout. Les rovers autonomes sont plus petits. Enfin, c'est plus petit. C'est quand même des machines qui font la moitié de ton appart, mais c'est des grosses voitures, quoi. Des grosses voitures.
C'est pas un super grand appart non plus. Donc voilà, si vous voulez visualiser.
En gros, à peu près 100 mètres carrés, la moitié de l'appart de Maxime.
Le premier étage ou pas? Bon. D'accord, waouh.
Ouais, c'est des sous-marins sans parquet. Et aussi une partie des épisodes, du coup, où on essaye de donner à voir des environnements très différents qu'on peut avoir en plongée bouteille, mais des plongées absolument pas techniques où tu es entre 0 et on va pas en dessous de 40 mètres, tu vois.
Ça vous a emmené où, ça?
Alors, on a fait... donc déjà, on a tourné en fosse, ce qui était assez intéressant. Donc, les premières plongées étaient à Paris, dans des piscines qui sont conçues pour ça.
Et ça, c'est l'aventure, déjà.
C'était génial. Et franchement, voilà. C'était assez, assez chouette. Mais bon, il fallait prendre le RER. Après, on a fait une plongée sous glace. Absolument pas profond, mais
Tignes,
en fait...
Non,
ouais, à Tignes. T'as quelques endroits en France, comme ça, où tu peux plonger... sous la glace d'un lac d'altitude, donc tu es entre 0 et 6 mètres, mais tu es en plongée intégrale. Alors bizarrement, je crois que c'est les plongées durant lesquelles j'ai eu le moins froid de toute ma vie, parce que t'es sec à l'intérieur. En fait, t'as froid au visage, t'as une toute petite partie du visage qui est en contact avec l'eau, qui est pas très agréable parce que l'eau est littéralement à 1,5 degré. De toute façon, tu serais pas en combi, tu meurs rapidement là-dedans. Mais ta combi dedans, vraiment, t'es en pull et en jogging, quoi. Excellent. Avec des chaussettes, tu rentres là-dedans, t'es un peu bibandum.
Après, petit vin chaud.
Et donc, on a fait ça. Et puis après, on a fait des plongées dans un musée englouti à Lanzarote, aux Canaries. En gros, il y a un artiste qui, à plusieurs endroits à travers le monde, a immergé des statues. Et c'est conçu pour que tu te promènes là-dedans. Ça fait des ambiances assez chouettes. Et on a un peu tourné de nuit là-bas aussi. Donc, tu n'as pas vraiment de poissons. Tu as des statues à l'échelle 1 d'humain.
Ah, t'as l'impression d'être dans un monde sous-marin, ouais. Ça doit être fou. Ouais.
Ça fait des ambiances. En fait, on se disait, ce qui est dommage, c'est que nous, on était sur expliquer un peu l'exploration des grands fonds et tout ça, mais là-dedans, faut tourner un film d'horreur, en fait. La nuit, c'est... Parce que t'as que des silhouettes humaines. Enfin, en plongée, tout de suite, les jeux de lumière sont fous. Et puis, comme t'es pas contraint par la pesanteur, t'es un peu comme en train de... Tu flottes dans l'espace, quoi. Mmh. Donc, tu peux faire des plans assez fous, quoi.
Faut pas nous donner des idées comme ça.
Faut quel niveau pour aller à Lanzarote faire ça?
Si t'as le paddy, tu c'est absolument pas profond, il est à 12 mètres.
12 mètres, ah oui, ça marche.
C'est accessible pour tout le monde, c'est vraiment conçu, même pour les baptêmes, ils emmènent les baptêmes dessus.
Excellent, ouais. J'ai baptisé mon enfant là-bas, moi. T'es en Polynésie.
Et on est allé en Polynésie aussi, donc sur les atolls de Rangiroa et Fakarava. Du coup, là, c'était plus pour filmer les requins, dans une passe qui est très connue. Donc les passes, c'est les sorties des atolls. Souvent, les atolls, ils ont des trous d'entrée ou de sortie. Et donc, c'est là que, pendant la marée, l'eau rentre et sort. Et comme il y a beaucoup de courant, il y a une forte concentration de vie autour de ces endroits. Et la passe de sud de Fakarava est très connue, notamment parce qu'il y a eu un documentaire qui a été fait par Laurent Balesta, que vous avez peut-être vu, qui est absolument hallucinant. Où, en gros, il y va pendant la période des reproductions des mérous.
Ok.
Et comme les mérous ont plutôt bon goût selon les requins, il y a une concentration de requins hallucinante à cet endroit-là pendant cette période-là. Et donc eux, ils faisaient beaucoup de plongées de nuit pour les voir en train de chasser les mérous.
Okay.
Et t'as littéralement, je crois que son docu d'ailleurs doit s'appeler 500 requins dans la nuit parce que t'en as absolument partout.
Ah oui, j'ai dû voir ces images-là.
Et donc nous, on y est allé, donc c'est pas la période des mérous, on n'a pas plongé de nuit parce que... On avait entendu des histoires de gens qui se font un peu niaquer.
Ils se font confondre pas avec les mérous, ça serait...
Ouais, on est allé voir un club pour tenter l'expérience. Avec David, on était un peu chaud, Léa est un peu réticente. On se dit, vas-y, on essaye une de nuit quand même. Mmh. Et le mec, quand il commence à nous briefer, il nous dit, bon, le truc, c'est qu'il ne faut absolument pas éclairer les gens de votre palanquée, enfin les plongeurs à quitter, parce que si tu éclaires quelque chose, les requins, eux, en fait, ils fonctionnent... à l'odorat, mais ils sont privés du sens de la vue la nuit, tu vois.
Ah oui.
Et du coup, quand t'éclaires, ça leur donne un avantage de fou. Si t'éclaires un poisson, ils vont tous se jeter dessus. Mais si t'éclaires le bras de ton pote, tu vois, en fait, pour eux, c'est
un peu comme les moustiques finalement.
Mais en plus gros, plus avec des dents.
Si tu mets de la lumière, les moustiques ils viennent, non,
c'est
pas...
C'est vrai. Voilà. Mais moins flippant. Oh, ouais. Quoique.
Et du coup, on a plongé à cet endroit et c'était.
Ils t'ont fait signer la décharge ou pas?
Non.
Non, c'est vrai.
Signez ce petit papier avant.
Non, on n'a pas signé de décharge.
Ah ouais. Bon, bah ça, c'est que ça devait pas être si.
Mais ce qui est marrant, c'est que en plus j'ai grandi à La Réunion, mais des requins, j'en ai jamais vu à La Réunion. Pourtant, en plus avec je suis parti juste avant que les bulldogs commencent à croquer les surfeurs, mais j'avais toujours entendu des histoires de pêcheurs qui se faisaient niaquer un petit bout par un requin marteau, machin. Et il y a énormément d'endroits à La Réunion où ça a toujours été déconseillé de se baigner, tu vois.
D'accord.
Mais j'avais jamais vu de requins. Et du coup, de la Polynésie, il y en a énormément. Mais des requins qui peuvent être tout petits. Mmh. Et y en a ce qu'on appelle les pointes noires. Dans la première fois qu'on en a vu un en plongée, je te jure, moi, j'arrivais pas à lui tourner le dos. Je voulais toujours l'avoir en visu, si ce bâtard de traite, il m'attaque par derrière et tout. Alors que je savais très bien, tu vois, j'étais pas dans une logique des dents de la mer. J'avais lu plein de livres, je savais très bien.
Qui avait déconstruit le mythe
le fantasme du requin mangeur d'hommes. Mais t'as, mine de rien, ça travaille, quoi. Mmh. Et puis, en fait, tu te rends compte que, déjà, ils ont strictement rien à faire de toi.
Ouais.
Et puis alors typiquement les pointes noires, c'est vraiment c'est les chiens du lagon. Il y en a absolument partout. Des tout petits, trop mignons qui font 20 cm, 10 cm, qui sont des tout petits bébés, comme des trucs sont un peu plus grands, ça dépasse rarement un mètre les pointes noires. Mais je veux dire, après, tu te retrouves à faire du paddle et t'en as 3-4 qui tournent autour, ça dérange pas, tu vois. Et par contre,
toi,
à Faka,
ça peut pas faire bien mal.
Bah, tu sais, c'est comme un chien, c'est-à-dire que si ça te prend un petit bout et qu'ils sont beaucoup.
Voilà, un petit bout. Ouais, mais tu peux
le problème, c'est
dire.
Que ça lâche pas, non, c'est pas ça.
Si, si, ça doit lâcher.
Ça lâche un peu.
Après, plein de petits bouts, et puis moi, même faire les petits bouts qui me prennent, j'y tiens. Enfin, c'est la question de.
Oui, non, mais je serais pas ravi, mais ça me ferait moins flipper qu'un truc qui pourrait, genre, manger un membre entier.
J'aimerais bien t'y voir, Marie, pour de vrai, là, avec les petites pointes noires, là.
Ah ouais?
On va faire
moi,
ça.
Moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Hein.
Et après, à, part, ouais, à Faka...
on est en roue libre.
À part la mort, tu t'es dit
mais, en plus, c'est pas vrai.
Mais je te rejoins, c'est très bien. Je pense que c'est une peur plutôt... c'est une bonne peur à avoir.
Mais en plus, j'ai même pas vraiment peur de la mort. Bon, bref.
Et ben, moi non plus.
Moi, j'ai peur de la solitude. Pour ouais. La vérité, c'est ça. Bon, là, ça n'a plus rien à voir avec le voyage.
Ben, la solitude, il faudrait que tu ailles faire l'expérience dans la grotte.
Voilà, ça, par exemple, je préfère...
Mais non, t'es en groupe.
Ah oui, c'est vrai que t'es en groupe.
Une autre expérience où j'étais tout seul, non, ça je peux pas.
C'est peut-être pas le sujet, mais expérience solitude, j'aime bien ce que tu dis parce que. Et je considère que c'est peut-être un des voyages les plus fous que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai craqué avant la fin, mais en fait, je suis pas allé bien loin. Quand j'avais ouais, 28, un truc comme ça, ça faisait un moment que j'essayais d'écrire une histoire que j'ai jamais fini d'ailleurs. Et je me suis dit, ouais, il faut que je la finisse et j'ai besoin d'un cadre, tu vois, un truc qui oblige. Et du coup, j'ai loué un tout petit chalet d'alpage. Alors vraiment, en fait, c'était une bicoque, ça faisait 9 mètres, 10 mètres carrés. Il s'appelle le chalet Léo Ferré, parce que Léo Ferré y allait. Je suis absolument pas fan de Léo Ferré, mais je trouve ça le pur hasard. Fait que... Et c'était près de la frontière italienne, fallait marcher une heure, et t'arrivais sur ce petit truc, on t'avait filé les clés. C'est extrêmement spartiate, t'as pas de douche, tu récupères de la flotte qui tombe du toit et tout. Et donc, j'y allais dans l'idée de passer une semaine tout seul, mais vraiment tout seul. C'est-à-dire que les 3 premiers jours, j'ai vu passer un troupeau de moutons. De chèvres, pardon, et puis c'est tout. Le lendemain, j'ai vu 2 randonneurs, et après plus rien. Et donc le soir, bah t'es là, la bougie, bah très vite tu t'emmerdes en fait. Ouais. Parce que ouais, la journée, t'écris tes trucs, mais t'as beau te forcer, en fait, forcément, c'est pas parce que t'as décidé que ce serait le moment où l'inspi viendrait que ça vient nécessairement. Ouais, ouais. T'as usé tous tes podcasts, t'as plus de piles.
Ah, tu t'avais, tu t'autorisais
ouais,
à divertir
même,
avec des
je
podcasts.
Je m'étais emmené un peu de podcasts et tout, mais t'as très vite plus de batterie. Et puis voilà, t'es là, soir il flotte, t'as pas d'électricité. Enfin, tu vois l'épaisseur de la société moderne. Et là, tu vis comme au Moyen-Âge, quoi. Enfin, après, au bout de 5 jours, j'en avais marre. Du coup, je suis parti. Alors que je l'avais réservé 7 jours. Parce que j'ai craqué. La solitude était trop longue. Et pourtant, je suis plutôt en bonne compagnie avec moi-même. Mais là, j'en avais marre. Enfin, je m'ennuyais, quoi.
Ouais.
Aucun regret d'avoir. Tu t'es pas dit finalement. Oh,
non, parce que j'avais pas le mojo. J'avais fait ce que
je
voulais faire sur cette histoire qui traîne toujours. Bref.
Maxime, toi, t'as fait combien de temps tout seul déjà?
Moi, quand je suis allé au Népal et que j'ai fait ma Vision Quest, où tu restes 4 jours tout seul dans la forêt, sans manger, sans divertissement.
Sans manger, ça c'est dur. Ça.
Ouais,
mais du saucisson en quantité.
Ah ouais, mais ouais, non, j'avais pas le droit de manger. Mais en fait, la faim elle disparaît un peu. Bon, j'avais très envie de bonbons parce que j'avais vu des bonbons à Katmandou et je voulais trop les dégommer. Et j'ai pensé à ça pendant les 4 jours. Mais non, mais la solitude. Mais comparé à la grotte, en fait, moi j'avais l'avantage pour le temps qui passait, tu sais, j'avais le soleil. Donc c'était. Je regardais mon ombre tout le temps pour savoir
pas de
où j'en étais.
T'avais rien du tout.
Non, il fallait. En fait, c'était un truc où t'étais censé réfléchir à la vie, tu vois. Ça te mettait dans des conditions pour pouvoir répondre à des questions auxquelles t'as pas l'occasion de répondre dans ton quotidien parce que t'es toujours occupé, t'as toujours ton téléphone, etc. et tu fais plein de trucs. Là, c'était vraiment en mode, t'es tout seul, t'es avec toi-même, c'est quoi ton futur, tu veux quoi et tout. Pour être heureux, vas-y, réfléchis tout seul, quoi. Et t'avais que de l'eau et le soir, je me faisais un petit feu et tout. Là, vraiment, il n'y avait rien à foutre.
Et puis là, pour le coup de l'ennui, mais ouais.
Il y avait rien à
des abdos, quoi, je sais pas.
Ouais, mais même pas la flemme, parce que tu pouvais pas bouffer, donc t'étais rincé. Mais bon, je venais de prendre de l'ayahuasca où j'étais un gorille trois jours avant, donc j'avais des trucs sur lesquels cogiter, tu vois.
Qui n'a jamais été un gorille, je veux dire.
En même temps, le danger, c'est moi maintenant, donc voilà, laissez-moi tranquille.
Ça t'a servi. Si tu mets cette expérience indépendamment, parce que oui, si t'avais l'ayahuasca avant, c'est dur à dire, orthophoniste, ayahuasca, mais est-ce que ce truc, ce moment,
le truc c'est que j'ai passé beaucoup de temps tout en dep, tout seul dans mon canapé, à rien foutre de mes journées, je pouvais plus sortir de chez moi parce que j'avais pas envie qu'on me regarde dans la rue, qu'on me dise hey, Maxime c'est trop cool ce que tu fais, alors que j'avais l'impression que j'étais une merde et tout, donc je restais toute la journée chez moi. le soir, j'allais boire des coups et ça allait mieux, et donc j'étais avec les copains, donc ça va. Mais la journée, j'étais vraiment, je foutais rien, et j'étais et je regardais l'heure qui passait. Parfois, j'allais regarder la fenêtre et tout. Donc, je connaissais ce truc de rien foutre, quoi. Donc, ça m'a pas, c'était pas nouveau le fait d'attendre à rien faire. Mais là, je le faisais dans une condition où j'étais beaucoup mieux dans ma tête, quand même. Maintenant, attendre 6 heures dans quelque part, ça me fait beaucoup moins chier. Avant, ça me rendait fou, tu vois. Avant, ça me rendait fou. Genre, je disais, prendre un train pendant 3 heures, déjà, 4 heures, c'est comment je vais faire pour tenir mon cerveau, il va
Oui, mais tu vois, genre, attendre 3 heures dans un train avec ton portable, ta musique, ton truc, l'enfer. Ton machin, pour moi, c'est hyper simple. Ouais. Mais, par exemple, chez moi, j'habite seul, c'est jamais silencieux chez moi. C'est-à-dire, soit il y a la télé qui met un programme, soit j'écoute un podcast, soit j'écoute de la musique, soit je parle à mon chat, mais ça va pas durer plus de 20 minutes parce que ça devient chelou. Mais dire, j'ai jamais aucune occupation. Ah oui. Par exemple, je bouffe toute seule, je bouffe pas en silence, face à rien, je suis toujours devant un truc. Et du coup, moi, c'est vraiment le truc de me dire, aucune activité à part réfléchir. Oh, c'est trop long.
Ouais,
mais en même temps, je serais trop curieuse de le faire, ça. Tu vois.
Eh ben. On a envie des expériences là.
Ouais, j'ai une petite question. Est-ce que t'as, parce que j'ai l'impression que tous tes voyages, c'est très lié donc à l'aventure, à la nature et tout. Est-ce que t'as déjà eu des voyages qui étaient genre motivés par, j'en sais rien moi, de la bouffe, de la culture, enfin autre chose
Alors j'adore bouffer, mais c'est pas ça qui me pousse à aller quelque part. Okay. C'est un petit plus, mais non, parce que du coup sinon je serais jamais allé en Norvège, parce que c'est vraiment...
Pas bon, la bouffe.
C'est absolument... c'est honteux, en fait, d'avoir atteint un tel degré de développement et d'avoir des choses aussi mauvaises. Bah, là, c'était la parenthèse vraiment outrée.
La Norvège, c'était pour un projet vidéo aussi?
Non, on est parti ensemble avec ma copine.
Ah d'accord.
C'était
alors.
Purement vacances farniente.
Svalbard, c'est pas la Norvège?
Ça appartient à la Norvège, effectivement. D'accord. Donc, je pensais Norvège...
L'autre,
Norvège continentale, très juste. Très, très juste.
J'ai mes petites notes à côté.
Je sais pas si tu sais, mais en fait, c'est interdit de mourir aux Svalbard.
Ah, bah tu vois, mais on en parlera après. Mais pardon, alors, donc t'es allé. Ça, c'est vacances pas travail. Très bien, très bien. Enfin, voyage pas travail.
Norvège, ça m'a. Mais c'est pas la raison première, mais ça peut m'arriver. Pour la culture, moins. En fait, je me lasse très vite. Excuse-moi pour le brasser. Je me lasse très vite des temples, ce genre de. Alors. J'allais dire oui et non, par exemple, vous avez peut-être dû y aller à Angkor, au Cambodge. Bon, j'ai pris une claque, cet endroit est incroyable.
Ouais.
Et j'ai vraiment passé 4 jours avec mon vélo à faire le truc de long en large toute la journée. J'étais fasciné par cet endroit-là. Mais c'est très très rare, si tu veux. C'est des pays qui sont extrêmement marqués par une histoire religieuse ou... La deuxième fois où je suis allé en Inde et où là on est plutôt allé au Rajasthan et à Varanasi, enfin Benares avec mon pote, je veux dire Benares c'est incroyable, mais une fois que t'as fait un ghat, t'as fait deux ghats, j'ai l'impression que c'est plus l'ambiance générale de la ville, mais pour moi c'est pas une condition suffisante pour le voyage quoi.
Moi, par exemple, je sais que, pareil, j'aime bien visiter les temples, les endroits culturels, etc. Mais par exemple, me balader au Vietnam à Hanoï, juste toute seule, mais juste marcher dans la ville, avoir un seul écouteur, parce qu'en fait, tu peux pas écouter vraiment ta musique, vu qu'il y a des scooters de partout et qu'il faut faire attention. Mais juste d'être plongé dans l'ambiance, de juste observer les gens qui vivent, observer les gens qui vendent des trucs, qui achètent des trucs, qui parlent, les machins, et de me balader. Juste ça, moi, ça me refait mon truc. Genre, j'ai l'impression d'être intégré à la vie de gens qui ont une culture différente de la mienne. Et voilà, il n'y a pas de truc de ouf, quoi.
C'est mais tu peux le faire combien de jours, ça, d'affilée? Tu peux rester combien de jours à Hanoï, par exemple?
Hanoï, en vrai, j'ai vraiment tellement kiffé cette ville. Ouais.
Trop bien.
En plus, c'était la première que j'ai faite en arrivant. Et je l'ai déjà raconté ça je crois, mais j'avais vraiment fait une petite panique dans l'avion, en disant mais qu'est-ce que je vais foutre en Asie, mais en fait je vais rien comprendre et je suis toute seule et qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que j'avais déjà fait un voyage toute seule en Amérique du Sud, où là j'étais en mode l'espagnol, tu sais, c'est un peu le français, mais avec des O et des A. Ouais, zéro degré, enfin zéro, pas très peu de réflexion pour Marie. Et quand je suis arrivée à Hanoï, il y a eu un truc de là. Ah, je me sens tellement bien ici. Alors que c'est très différent de Paris, vous en doutez, mais je me suis senti tout de suite bien dans cette ville, ce qui n'est pas le cas dans plein de villes du monde, tu vois, mais là je me suis senti tout de suite bien. Et je pense que j'aurais pu rester vraiment. Allez, je pense au bout d'une semaine, peut-être je m'ennuie, mais j'aurais pu rester 10 jours à me faire des potes, à parler.
On y retournera, Marie.
Allez.
Oh là là, mais disons que c'est que le temps passe. Et est-ce que tu nous aurais préparé une petite anecdote? Je t'ai demandé, tu sais, si t'avais quelque chose d'un peu fou que tu pourrais nous raconter.
Ou de drôle, ou de
ce que tu veux.
Alors je...
T'en as plusieurs en stock, j'ai l'impression.
Ouais, j'en ai. Non, mais en fait, il y en a une. C'est... Non, mais il y en a une que je peux pas dire. Parce que...
Ah bah,
non,
si,
elle est trop sexuée, donc.
Elle est trop. Je mettrai des bips.
Nous,
non, je la raconterai.
Elle était
pas...
en voyage.
Ouais, je vous la raconterai en off. Je la raconterai en off. Okay. Parce que même si ma copine écoute, même en fait, non, c'est juste. Tu sais, des trucs de buverie, les machins improbables qui finissent dans un dortoir, bref.
Et combien de personnes? Juste combien de personnes? Vous savez, combien de
personnes? Ah non, juste une personne.
Ah, une personne.
Mais c'est mon cousin et moi à Buenos Aires, on s'est fait virer d'un dortoir.
Oui.
Et on a fait déménager du dortoir, enfin pas que mon cousin et moi, et les deux filles avec qui on était. D'accord, bref, n'importe quoi, c'était vraiment... Oh là là, oh là là.
Bon. Tu vois, c'est, après, c'est le genre d'anecdote qu'on adore, mais t'inquiète, si t'as pas envie de...
On peut mettre de côté.
Après.
Ah si, peut-être une anecdote, mais c'est pas... Enfin, je pense que tout le monde a vécu ce genre de truc. La deuxième fois où je suis allé en Inde, donc c'était vraiment un voyage très différent de celui du Ladakh, où on était au Rajasthan et dans l'Uttar Pradesh, c'est bon, bah pour ceux qui sont allés en Inde, je pense que vous voyez un peu, Delhi, c'est quand même infernal, c'est extrêmement éprouvant. Et nous, vraiment, on a eu la totale de chez Total. On a eu droit aux faux militaires dans la gare, je veux dire, c'est surréaliste, c'est quand même dans la gare centrale de Delhi. T'es à côté des centres névralgiques du pouvoir du pays, et t'as des faux offices de tourisme littéralement partout. T'as des faux rabatteurs, et dans la gare, pour pas te faire prendre les billets au guichet officiel, t'as des faux militaires, des faux flics et des faux agents de... Et donc en fait tous ces gens-là ont un discours très bien rodé, c'est-à-dire que t'envoies un arrivé, tu fais « Ah non, vas-y, ta gueule, t'es avec ton badge et tout, j'ai bien compris, t'étais une fausse personne », mais quand tu vois un faux militaire, tu te dis « Putain, quand même, t'es dans la gare, c'est bizarre, enfin, ici, il n'y a pas de raison ». Il fait « Non, non, lui, c'est pas... il te dit juste que ce mec n'est pas un faux, et machin, finit par prendre un tuc-tuc pour qu'il t'emmène dans le tourisme,
C'est l'arnaque bien préparée,
dans le truc
quoi.
Officiel pour pouvoir prendre... un billet parce que les touristes n'ont pas le droit de les acheter là, donc tu fais le truc là, tu te dis t'as un quart d'heure de tuk-tuk, t'arrives devant un machin qui est un peu brimbalant, tu fais ça, c'est pas l'office du tourisme, je me suis vraiment fait avoir. Donc tu rentres, le mec, tu te rends compte qu'il essaie de vendre le ticket deux fois plus cher, c'est pas cher, mais moi je déteste me faire embobiner comme ça, du coup avec mon pote on se barre, mais en fait tu te retrouves dans une zone où y a plus de tuk-tuk, donc le mec qui t'a emmené gratuitement pour te faire arnaquer, il veut pas te ramener à la gare si tu payes pas 20 balles. Donc après tu finis par arriver à la gare et là tu te rends compte que le train que tu devais prendre pour aller à Varanasi est déjà parti, qu'il y en a qu'un par jour. Et du coup tu passes une journée de plus à Delhi parce qu'on était tellement, on fulminait tellement avec mon pote qu'on s'est dit franchement le faux militaire on le retrouve, on lui refait sa veste. Donc on a marché pendant une heure dans la gare pour les retrouver, ils avaient dégagé. Mais hallucinant quoi. Et le lendemain, du coup, on est arrivé un peu plus tôt, on se fait pas avoir. Donc là, en plus, c'est hyper. Tu te prépares mentalement quoi. On va sortir, il y aura des faux militaires, on va être sollicité partout. On dit non, non, tout le temps. Tout ce qu'on nous propose, c'est faux. On sait où on va dans la gare, on va acheter un billet. Le reste n'est qu'illusion. Et là, tu finis par arriver à un guichet qui existe, mais comme t'as tellement de rabatteurs qui ont dit non, ce truc n'existe pas, que c'est le Graal, tu découvres l'oasis et que t'étais à 100 mètres de ce truc, t'étais presque arrivé, tu vois. Et là. Là, c'est parfait. On te vend un ticket au prix. Enfin, c'est vraiment une aventure, quoi.
Ah oui, c'est la vraie totale, quoi.
Ouais, c'est la totale.
Waouh.
Mais c'était lunaire, quoi. Et pareil, le train qu'on a pris pour Varanasi, genre, c'est des trains hyper longs qui vont à 20-30 km/h. Donc, t'es dans les wagons, c'est sympa, avec les familles indiennes et tout. Mais le truc, je sais pas, il devait rouler 12 heures. Donc, c'était un train qui partait... on était parti en fin de journée. Il devait arriver en début de matinée. On partait vers... on devait partir vers 16 heures. Je pense qu'il est... peut-être parti vers 19h, donc t'attends 2h, mais t'as aucun moment où t'as un panneau qui te dit 2h de retard, donc t'attends comme ça, et tout est écrit en indien, donc donc tu passes ton temps à demander, mais heureusement il n'y a pas trop de train qui passe, tu finis par prendre le bon train, 2h de retard qui n'est pas annoncé, le truc part, t'es censé arriver à 8h du matin, je te jure, vers 5h du mat, quelqu'un nous réveille, il fait « on est déjà arrivé ». Moi j'ai jamais vu ça, tu n'arrives pas 3h en avance, tu vois, il a roulé un peu plus vite, et le truc allait quand même, il allait à Calcutta. Donc si tu continues, tu te retrouves dans une autre ville.
C'est pire que la grotte en fait, où le temps il passe beaucoup plus rapidement.
C'était quelque chose quoi.
Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas encore fait dans la vie que tu rêverais de faire, à part l'expérience dont tu nous as déjà parlé tout à l'heure, où tu vas vivre les
bucket list.
Trucs extrêmes, la bucket list?
Eh bien là, actuellement, non. En fait, je touche un peu du bois. J'ai plein de projets qui sont quelques... Enfin, je ne me suis jamais fait vraiment une liste bien posée, mais... des trucs qui me font...
C'est-à-dire que tu as tout déjà fait dans ta vie?
Non, absolument pas.
Alors, bah, dans ce cas-là,
absolument
faut...
pas, mais tu vois, j'essaye d'en avoir peut-être une par an, ou okay. Du coup, je me projette pas plus loin en me disant, après, il faut que ce soit celle-ci. De toute façon, j'espère que... Je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu as vidé la liste, il faut la re-remplir. Donc constamment, c'est pas quand elle est vide, tu la re-remplis, c'est elle se re-remplit au fur et à mesure, et tu sais pas trop ce que tu vas pouvoir aller assouvir, et peut-être t'as aussi des, entre guillemets, des fantasmes qui perdent leur saveur ou qui disparaissent.
Mais magnifique, quelle conclusion exceptionnelle. Voilà, je pense que maintenant vous avez tous changé d'état d'esprit grâce à Théo. Maintenant la bucket list, c'est un par an et ça dégage. Merci à tous et
c'est
à toutes.
C'est pas ce que j'ai dit, mais...
Oh, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Bah si, tu réfléchis pas trop loin. On réfléchit pas trop loin parce que
moi,
sinon...
Moi je pensais qu'il allait nous dire aller sur la Lune, un truc comme ça, mais bon, apparemment l'espace.
Ouais, mais ça c'est inatteignable, tu vois. Jamais ils voudront de moi. Je suis trop vieux, je suis trop con, ça passera pas.
Ça se tente quand même.
Mais après, je voudrais bien, je pense que...
Si j'ai un plan en Lune, t'inquiète. On...
Vas-y, ça marche.
Je t'embarque.
Eh bien, dans deux semaines, chers touristos, chers touristas, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des petits mots d'amour, des petits 5 étoiles, de vous abonner au compte Instagram de Tourista et également de mettre des petites stories en disant « Oh là là, mais j'ai adoré cet épisode !» en nous taguant et tout, comme ça on voit et ça nous fait plaisir. Comme ça, il y a des nouvelles personnes qui écoutent le podcast et qui voyagent juste avec les petites oreilles et ça, c'est pratique. Allez, Marie, une chose à dire ?
Non, juste bisous à tout le monde.
Merci Théo, à bientôt.
Ciao.
Ciao.